La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. La vie de Vladimir Nabokov, c'est celle d'un aristocrate de la Russie tsariste contraint de quitter son pays au moment de la révolution d'octobre. Il vivra donc en exil la plus grande partie de son existence, d'abord en Angleterre, en Allemagne et en France, puis aux États-Unis et enfin en Suisse, où il passera ses dernières années dans un grand hôtel de Montreux qui lui rappelait l'atmosphère des hôtels particuliers de son enfance. Tout cela, Laure Trubetskoy nous l'a raconté hier au cours d'une émission à réécouter en podcast. Et demain, nous reviendrons sur le roman le plus célèbre de Nabokov, le scandaleux Lolita, dont Didier Machu nous dira en quoi il met en scène un tyran à travers le personnage d'Humbert Humbert. Enfin, jeudi, Cécile Gilbert nous parlera des fameux cours de littérature européenne donnés par Nabokov à l'université notamment de Cornell et qui ont fait l'objet d'une publication par la suite. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, pour tenter de définir le projet profond de l'écrivain Nabokov, nous sommes avec vous, Yannick Chupin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Cergy-Pontoise, autrice d'un essai intitulé « Vladimir Nabokov, fiction d'écrivain », publié en 2009 aux presses de l'université Paris-Sorbonne. Vous avez publié également en 2011 avec René Alladé le livre « Aux origines de Laura », qui concerne la polémique suscitée par la publication du roman posthume de Nabokov, l'original de Laura. C'était aux éditions Gallimard et c'était en 2010. Un roman qui était loin d'être achevé, d'où évidemment la polémique à l'époque de la publication. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Nabokov lui-même avait demandé à sa femme Vera de le brûler et puis qu'est-ce qui s'est passé ?
Sa femme n'a pas pu se résoudre à brûler le manuscrit. Il est resté entre ses mains et puis c'est Dimitri qui
donc
en a hérité, Dimitri Nabokov. Et qui, vers la fin de sa vie, a décidé de le rendre public. Et qui a donc fait don de ce nouveau manuscrit inachevé au Nabokovien, mais aussi à tous les lecteurs de Nabokov. Mais effectivement, c'était l'objet, la polémique était bel et bien présente, puisqu'on allait contre la volonté de l'auteur, qui avait bien interdit cette publication.
Et en même temps, il devait bien se douter que sa femme n'allait pas avoir le courage de brûler ses fiches. Il fallait le publier pour vous ou pas ?
Alors, c'est difficile de se prononcer sur cette question. Il y a la question scientifique. Voir le dernier travail de Nabokov, le dernier manuscrit, c'est évidemment une aubaine qui permet aussi d'éclairer d'autres aspects de son œuvre. Est-ce que l'on respecte les derniers vœux d'un mourant aussi ? Peut-être la vraie question.
Mais est-ce que c'était vraiment sa dernière volonté ou est-ce que c'était une nouvelle mystification ?
c'est difficile de le savoir. On sait, vous avez rappelé hier qu'il avait voulu déjà brûler le manuscrit de Lolita. Donc on peut imaginer que peut-être il y avait un désir presque inconscient de garder ce manuscrit.
Décidément, heureusement que Vera est là quand même, pour vous
voilà,
les Nabokoviens.
Merci Vera, comme disait Laure Trubetskoy hier.
Ça a changé quelque chose pour vous, la lecture de ces fiches, alors, parce que c'est simplement des fiches en facsimilé qui ont été publiées.
Oui. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose Il y a, c'est un roman qui vient après Regarde les Arlequins et qui me semble, même s'il est inachevé, jouer un petit peu avec, comme il l'a fait dans Regarde les Arlequins, mais de manière plus légère, avec sa figure d'auteur, avec sa figure d'auteur de cette personnalité Vladimir Nabokov. Il y a la recréation d'un personnage très proche de Humbert, qui s'appelle Hubert Hubert, et qui qui crée chez le lecteur l'attente d'une nouvelle scène provocante, comme il y en a dans Lolita, mais en réalité, c'est encore un tour de passe-passe, puisque nous sommes déjoués. Lorsque on avance un peu dans la lecture, on s'aperçoit que Hubert Hubert est tout sauf un Humbert Humbert, même si tout nous portait à croire qu'il allait rejouer Lolita.
Il y a aussi une mise en abîme dans le sens où dans l'original de Laura, il y a l'histoire d'un roman à détruire. C'est quand même troublant aussi.
Oui, oui. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la fiction de Nabokov. Ce mélange troublant de la fiction qui annoncerait la réalité.
Qu'est-ce que ça nous dit quand même sur la manière de travailler de Nabokov? On sait qu'il travaillait donc toujours par fiche, qu'il les a organisées oui. Par la suite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors, Nabokov était un écrivain qui se relisait énormément, qui retravaillait, d'où la nécessité de travailler avec des fiches et non pas un cahier qui nécessiterait une forme de linéarité. Les fiches lui permettaient d'intervertir certaines scènes, de retravailler, d'insérer d'autres descriptions entre deux fiches. Voilà, c'était un écrivain, quand on regarde les fiches, qui raturait beaucoup aussi, qui réécrivait sans arrêt. Même quand il traduit ses propres romans, il est tenté par la réécriture. Donc le texte est en constante évolution jusqu'à ce qu'il y ait ce texte parfait qui finira par être publié.
Et qui est d'une grande fluidité, on ne voit pas du tout évidemment le travail.
Non.
Alors c'est vrai qu'il y a toujours des hommes de lettres, des écrivains dans les livres de Nabokov, c'est ce que vous montrez justement Yannick Chupin, dans votre livre Vladimir Nabokov, fiction d'écrivain, voilà j'y arrive. C'est un livre où vous cherchez à définir au fond ce qui fait l'intérêt de la littérature pour Nabokov et votre thèse, j'imagine qu'elle est partagée par de nombreux chercheurs, c'est que ce qui intéresse réellement Nabokov, c'est la littérature elle-même et c'est sur cela qu'il écrit.
Oui. Alors, il n'était pas intéressé que par la littérature, mais il aimait aussi l'entomologie et la peinture. Il a failli être peintre. Mais dans son œuvre, ce qui reste aujourd'hui, ce sont des romans, des nouvelles. Et effectivement, il y a cette présence presque envahissante du personnage de l'écrivain dès le premier roman jusqu'au dernier. Dès le premier roman, si on prend Mashenka, on a déjà deux figures d'écrivains. Il y a le vieux poète Podiakin, qui est un héritier de la poésie traditionnelle russe. Et puis, à ses côtés, à Berlin, donc dans cette pension de famille que Podiakin habite, il y a aussi Ganin, qui n'est pas encore un écrivain à proprement parler, mais je crois que c'est un écrivain chrysalide, puisque le roman le laisse aux portes d'une vocation. À la fin du roman, il observe une maison, la charpente d'une maison et des ouvriers qui œuvrent à construire cette maison. Et il assimile tout ce qu'il voit à une reliure de livres. Et on a l'idée, puisqu'il se prépare pour un nouveau départ, qu'il a trouvé sa vocation et qu'il va devenir écrivain. Et là, on est un petit peu dans un thème qu'on va retrouver souvent, c'est-à-dire une proximité biographique du personnage avec Nabokov. À ce moment-là, Nabokov publie justement son premier roman. Il vient de trouver sa vocation de romancier. Et dans l'ensemble des œuvres, les personnages écrivains vont suivre les déplacements de Nabokov dans sa vie.
Autrement dit, l'obsession de Nabokov, hormis les papillons, c'était qu'est-ce que c'est qu'être un écrivain? Comment être un écrivain?
Oui, on peut imaginer que s'il a déployé tant d'énergie, tant de romans à la question de l'écrivain, c'est qu'il réfléchit constamment à ce que peut signifier l'écriture. Comment elle est capable de recréer peut-être ce qu'on a perdu, en tous les cas, peut-être pas ce qu'on a perdu, mais recréer un espace dont on ne sera pas expulsé. On sait que Nabokov a été exilé deux fois, et l'écriture est comme pour lui peut-être un territoire qu'il va pouvoir habiter.
Donc c'est retrouver l'enfance?
Alors, il y a le regard vers l'enfance, bien sûr. Ce n'est pas tant retrouver la Russie que retrouver ce monde merveilleux de l'enfance dont il est coupé. Et aussi recréer également une vie propre la réinventer.
Une vie parallèle.
Et une vie parallèle pour, à travers les figures de tous ces écrivains, qui ne sont jamais Vladimir Nabokov. Ce sont toujours des écrivains fictifs. Il y a un jeu, évidemment, entre cette proximité. Il y a des échanges. Fiodor, dans Le Don, pourrait nous faire penser beaucoup à Nabokov. Mais Nabokov s'en défend, nous dit bien, attention, je ne suis pas mon personnage. Ce personnage est un personnage fictif.
Donc vous diriez que la vie de Nabokov, elle se passe d'abord dans la fiction. Il vit finalement davantage dans la fiction ou autant dans la fiction que dans la réalité, Yannick Chupin.
Est-ce que Nabokov vit dans la fiction plutôt que dans la réalité ou plutôt sa réalité à lui, c'est d'écrire de la fiction.
On va écouter comment Nabokov définissait ce qu'était pour lui le roman dans un de ses cours de littérature européenne. Écoutez.
Les romans dont nous nous sommes imprégnés ne vous apprendront rien que vous puissiez appliquer aux bons gros problèmes de l'existence. Ils ne vous aideront ni au bureau, ni à la caserne, ni dans la cuisine, ni dans la chambre des enfants. En fait, les connaissances que j'ai essayé de partager avec vous ne sont que luxe pur et simple. Elles ne vous aideront pas à comprendre l'économie française, ni les secrets du cœur d'une jeune femme ou du cœur d'un jeune homme. Mais elles peuvent vous aider. Si vous avez suivi mes recommandations, à éprouver la pure satisfaction que donne une œuvre d'art inspirée et précise. Et ce sentiment de satisfaction va, à son tour, donner naissance à un sentiment de confort mental plus authentique, le type de confort que l'on ressent lorsqu'on prend conscience du fait qu'en dépit de toutes ces bourdes, de toutes ces bévues, la texture profonde de la vie est aussi une affaire d'inspiration et de précision. Dans ce cours, j'ai essayé de démontrer le mécanisme de ces merveilleux jouets, les chefs-d'œuvre littéraires. J'ai essayé de faire de vous de bons lecteurs qui lisent non dans le but infantile de s'identifier au personnage du livre, ni dans le but adolescent d'apprendre à vivre, ni dans le but académique de s'adonner aux généralisations. J'ai essayé de vous apprendre à lire les livres pour leur forme, pour leur vision, pour leur art. J'ai essayé de vous apprendre à éprouver un petit frisson de satisfaction artistique, à partager non point les émotions des personnages du livre, mais les émotions de son auteur, les joies et les difficultés de la création. Nous n'avons pas glosé autour des livres, à propos des livres. Nous sommes allés au centre de tel ou tel chef-d'œuvre, au cœur même du sujet.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Que retenez-vous, Yannick Chupin, de l'extrait qu'on vient d'entendre ?
On y entend beaucoup des principes forts de l'écriture de Nabokov et de la fiction de Nabokov. Une fiction qui se dégage du monde social, des généralisations, des grandes idées, mais qui est une écriture
de la politique.
De la politique. On peut ouvrir une parenthèse, la politique n'est pas présente directement dans les œuvres de Nabokov. Il ne faut pas dire toutefois que Nabokov est entièrement dégagé de l'affaire politique. C'est quelqu'un qui a souffert lui-même d'événements historiques. Et dans sa fiction, la politique va être transformée, abordée de manière très oblique avec la recréation d'univers fictifs, mais qui rappelle étrangement les dictatures. La dictature hitlérienne, par exemple. Donc on retient aussi donc l'attention aux détails, hein, l'attention à la grande sensualité de l'écriture à travers son travail sur les sens, la précision, l'inspiration dont il parle. Et puis l'exhortation aux étudiants de lire.
Précisément, et de lire, même s'il ne fallait lire que peu de textes, de les lire de la manière dont l'écrivain souhaiterait qu'on les lise,
voilà.
C'est-à-dire pas à travers une grille de lecture, par exemple. Alors, il parle aussi de contes de fées, en disant
oui.
Un grand roman, ça doit être un conte de fées.
Oui,
qu'est-ce que ça
veut dire ? Les grands romans sont des contes de fées, dit-il. Évidemment, il n'a pas du tout en tête le conte de fées traditionnel avec ses princes princesses et ses sorcières. Simplement, c'est le monde de la fiction, c'est le monde qui doit vous envoûter, vous séduire, suspendre votre incrédulité, pour reprendre le terme de Coleridge, vous aider à, non pas vous aider, pardon, mais vous captiver.
Et est-ce qu'en cela, il s'oppose aux avant-gardes qui vont produire des romans avec des paradigmes différents, qui seront peut-être pas de l'ordre du conte de fées, qui seront peut-être, par exemple, plus difficiles à appréhender?
Alors,
Et en même temps, lui, certains de ses romans ne sont pas simples non plus.
Non, ses romans ne sont pas simples. Et c'est presque troublant, cette citation. Chaque grand roman est un grand conte de fées, parce que quand on regarde la façon dont il va écrire ses romans dans la période américaine, avec cet écrivain à l'œuvre dans son œuvre qui est visible en train de composer son roman, on a l'impression que le pacte de lecture est rompu. On ne va pas pouvoir être captivé comme on peut l'être par un conte de fées, puisque sans cesse on est ramené à l'artificialité du roman en train de se composer.
Alors justement, quand Nabokov insère tant de personnages d'écrivains dans ses œuvres, on a l'impression qu'on n'est plus tellement dans le conte de fées.
Oui.
On est déjà dans quelque chose d'un peu méta, on est dans quelque chose déjà qui réfléchit sur ce que ça signifie d'écrire. Alors là, ça paraît contradictoire avec ce qu'il disait
absolument.
Dans le cours.
Ça paraît contradictoire, mais en fait, ça ne l'est pas. Parce que Nabokov déplace cette traditionnelle captation du lecteur par l'intrigue, par le récit, sur l'aventure de l'écrivain avec ses mots. On est invité dans la plupart de ses romans, et surtout de la période américaine, même si ça s'installe petit à petit, on est invité dans le laboratoire de l'écrivain. On le voit souffrir d'écrire et de ne pas trouver. On le voit à l'œuvre. Et il parvient à créer une intrigue parallèle qui est cette aventure avec le langage. Et il n'y a peut-être rien de plus passionnant pour lui et puis pour les lecteurs de Nabokov que cette aventure-là.
Alors on peut peut-être prendre quelques exemples. Donc dans Lolita, par exemple, le personnage de Humbert était des professeurs de français d'ailleurs,
oui,
de lettres françaises.
C'était un professeur, c'est quelqu'un qui, dans Lolita en fait, ce qu'on nous donne à voir, c'est le manuscrit de Humbert qui est écrit depuis sa petite prison de Nouvelle-Angleterre. Et donc il n'a que ce papier, ce crayon pour écrire, et Lolita est absente, Lolita est perdue. Il dit « je n'ai que des mots pour jouer », mais il a beaucoup de mots, et c'est ça sa force.
Et en plus, on a le sentiment qu'il y a une jubilation dans l'écriture, qui est donc à la première personne, puisque c'est lui qui raconte, comme si, après avoir quand même eu une vie sulfureuse, c'est quand même l'histoire d'un pédophile, après avoir été emprisonné, après avoir tué un homme, il prenait beaucoup de plaisir dans sa prison à raconter son histoire.
Oui.
On sent pas du tout le narrateur triste qu'on pourrait imaginer dans cette situation. Est-ce que ça, pour vous, c'est aussi une manière pour Nabokov de montrer finalement comment on peut prendre un plaisir immense et oublier complètement le réel dans l'écriture? Enfin, comment vous analysez ça?
Oui, il y a certes cette jouissance de l'écriture dans Lolita. Il y a une jubilation du mot juste, du mot rare, de la trouvaille, de
l'effet. Qui est troublante, hein, du coup, avec ce sujet, justement,
oui.
De la pédophilie. Enfin...
Alors, il y a ce jeu de l'écriture qui qu'on peut mettre en opposition avec l'étroitesse de la petite chambre d'où il compose son roman. Et à partir de cette petite chambre, cette petite cellule, il est capable de recréer un monde entier, un univers parallèle, parce que l'écriture est toute puissante l'écriture de Humbert peut lui permettre ceci. Il y a toutefois des passages où la difficulté est très très visible aussi, et l'écriture n'est plus du tout une source de jouissance. Je pense à un chapitre très très court, le chapitre 26, où il répète Lolita, 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 et demande à son imprimeur de le répéter jusqu'à la fin de la page, parce qu'il n'a plus les mots. Et le seul moyen de continuer pourtant à exister et à faire exister Lolita, c'est d'écrire son nom, puisqu'il n'a plus d'autres ressources.
Donc c'est un roman comme les autres, sur ce que c'est que d'écrire Lolita, contrairement contrairement à ce qu'on pourrait croire, évidemment. Contrairement à tous les autres thèmes qui sont en fait plus évidemment présents dans le roman.
Oui, on oublie peut-être à cause du scandale Lolita que Lolita est en réalité un roman sur Humbert et que Lolita n'est qu'une fiction dans ce livre et que ce qui s'écrit sur la page c'est l'histoire d'une écriture, l'histoire d'un manuscrit.
C'est-à-dire quoi, Lolita n'est qu'une fiction dans ce livre ?
Lolita, dans ce livre, c'est une recréation par Humbert de Dolores Hayes. C'est une recréation idéalisée et c'est un personnage de papier qui n'a même pas la parole dans Lolita. On ne l'entend que très peu et lorsqu'on l'entend, ses paroles sont travaillées et ressemblent trop franchement au discours d'une adolescente pour peut-être être vraie. Ce n'est pas la voix de Lolita qu'on entend. Elle est réduite au silence. La seule voix qu'on entend dans ce roman, c'est la voix de Humbert.
As I drove away over the dead leaves of your southern town, I watched you wave and wave. In the mirror I saw you wave as the autumn fell, until I made my turn and I thought, oh well, I thought, well, this could be the last time I see
la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Yannick Jupin pour parler de l'œuvre de Vladimir Nabokov et de la présence des écrivains qui sont très présents justement dans cette œuvre-là. Vous expliquez très bien dans votre livre qu'il y a à la fois du récit dans les romans de Nabokov, mais qu'il y a aussi un discours. Qu'est-ce qu'il nous dit finalement, ou que nous disent ces personnages d'écrivains ? Il tient quel discours en général l'écrivain chez Nabokov ?
Alors, on parle alors du discours, donc c'est-à-dire du conteur, celui qui prend en charge le récit, parce que ce que montrent ces romans, c'est cet échange entre le récit qui est la pure histoire et la prise en charge, la mise en scène de l'écriture par celui qui la raconte. Alors qu'est-ce qu'il nous dit simplement, il appelle sans arrêt notre attention sur la mécanique du récit pour nous dire ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, ce sont les détails, c'est le plaisir de raconter.
Mais à quoi ça se voit ? Parce que la plupart de ces livres, on peut les lire quand même sans accéder au niveau méta. On peut très bien les lire comme des romans qui ne sont qu'une narration, qui ne sont qu'une histoire.
Oui. Alors, vous parlez peut-être les romans de la période américaine, ça me semble peut-être difficile parce que c'est tellement présent.
Vous ne pensez pas qu'on peut lire Lolita comme le
pour
roman
son histoire.
Pour son histoire seulement.
Si, bien sûr. on peut lire Lolita à beaucoup de niveaux, mais on ne peut pas on ne peut pas ne pas entendre la voix de Humbert. Il y a deux voix de Humbert. Il y a le Humbert qui raconte son histoire. Il y a le Humbert qui est le Humbert du passé. Et donc le Humbert du passé, c'est l'histoire, c'est le récit. Le Humbert qui raconte, c'est celui qui se confesse. On est dans la confession, un petit peu à la manière dont l'envisageait Rousseau, où Humbert, le raconteur, essaye de se disculper en accablant le Humbert du passé, en montrant à quel point il était odieux et vil, et en espérant peut-être gagner la sympathie d'abord des membres du jury qui l'écoutent, parce qu'au début c'est une défense, une plaidoirie, et puis ça devient plutôt un récit qui est adressé au lecteur. Le lecteur est sans cesse interpellé dans Lolita, donc c'est difficile d'oublier cette deuxième
voix. Vous n'avez pas un exemple de cette interpellation ?
au lecteur, mon semblable, mon frère, avec cette citation intertextuelle de Baudelaire. Et puis, ce qu'on peut dire sur l'adresse au lecteur, c'est qu'elle est de plus en plus, il y a une proximité grandissante. C'est-à-dire qu'au début, on parle à des lecteurs qui sont anonymes, c'est un groupe pluriel. Petit à petit, Humbert se rapproche d'un lecteur spécifique qu'il va flatter, il va lui demander de se rapprocher de lui. Il dit qu'il va murmurer à l'oreille du lecteur et il va se créer une sorte de complicité entre Humbert et son lecteur qui va jouer du jeu de séduction de Humbert.
Alors, cette irruption de l'écrivain dans l'œuvre de Nabokov en tant que personnage, elle arrive très tôt, vous l'avez dit, mais elle va peut-être devenir de plus en plus systématique à partir du tournant des années 1940. Hein, donc c'est la période américaine. On peut même dire qu'avec La vraie vie de Sebastian Knight, ça devient vraiment très très évident. Oui. C'est un roman qui date de 1941. Et là, l'acte d'écrire est systématiquement mis en scène, oui. Yannick Chupin.
Oui, cela tient à l'intrigue. Donc on écrit, Sébastien Knight est un écrivain. On a déjà ce personnage d'écrivain central qui porte le titre du roman. Mais il y a un deuxième écrivain qui est le narrateur, qui s'appelle V, qui est son demi-frère. Il n'a pas d'autre nom qu'une initiale dans ce roman. Et qui découvre, lui, le métier d'écrire, qui n'est pas un écrivain professionnel.
Et ça nécessite de raconter un tout petit peu l'histoire, justement, et de dire que c'est ce frère qui écrit la biographie de son frère écrivain, qui est mort. Et ce faisant, alors il explique qu'il écrit dans un anglais qui n'est pas un très bon anglais, parce qu'il n'est pas écrivain. Mais en réalité, c'est Nabokov qui écrit son premier livre en anglais.
Oui.
Ça reste quand même du bon anglais.
Alors il y a la question de la langue aussi pour Nabokov. Il le dira, il n'était pas très très content de ce roman quand il l'a relu, je crois, 5 années plus tard. Et puis en écrivant à son éditeur, s'est rendu compte aussi qu'il y avait quelques maniérismes en anglais et s'est tout simplement dit, eh bien on dira que ce sont les fautes de l'écrivain, du narrateur qui ne maîtrise pas non plus la langue anglaise.
Alors, est-ce que biographie, puisqu'il s'agit de cela, avec La vraie vie de Sebastian Knight, c'est une manière pour Nabokov de donner son point de vue aussi sur le milieu littéraire. Il parle des écrivains en se moquant un petit peu d'eux, de leurs clichés, des émotions faciles, oui. De leurs prétentions. Donc il y a encore un niveau supplémentaire, c'est le regard sur les éditeurs, les écrivains.
C'est particulièrement vrai d'une autre figure de biographe dans le roman qui est Mr. Goodman et qui aurait aussi produit une biographie de Sebastian Knight et dont V dénonce les clichés, notamment sur la Russie, réduite à quelques balalaïkas et quelques moujiks, et la grossièreté. Et ça, c'est quelque chose, ces petites pointes assassines à d'autres auteurs, c'est quelque chose qui va se développer aussi dans toute l'œuvre de Nabokov. C'est très présent dans Ada. Il y a beaucoup de satires d'écrivains réels qui appartiennent à notre monde réel et qu'on reconnaît déguisés, peut-être parfois par des anagrammes ou des petites allusions sur le titre des œuvres et qui sont dénoncées comme étant tout à fait inintéressantes.
Il y a beaucoup d'humour aussi
chez
Nabokov et notamment quand il parle justement de ses confrères écrivains. Parfois, il invente aussi, comme dans Rire la nuit, des écrivains en inventant aussi leur œuvre et des titres de romans qu'ils auraient écrits, comme Mémoire d'un étourdi, Le tour de passe-passe, si c'est des œuvres fictives qu'il insère dans ses romans. On est vraiment dans le méta, là.
On est vraiment dans le méta, dans la création d'un écrivain et de son œuvre, avec des titres parfois ridicules, qui laissent supposer une œuvre très médiocre. Donc il y a ce regard acerbe, mais drôle, sur effectivement la scène littéraire.
Tous ces écrivains sont des hommes ?
Non. Il y a aussi quelques femmes dans la fiction de Nabokov, mais ce sont des écrivains, des personnages qui sont marginaux, mais je dois dire toujours assez... les femmes poétesses, souvent, sont plagiaires. sont sentimentales, mm-hmm. N'écrivent pas parce que c'est une nécessité, mais c'est un loisir, un passe-temps. Peut-être oui, très peu de... Je ne pense pas à une seule femme dans la fiction de Nabokov qui échappe, une femme écrivain qui échapperait au sarcasme.
Oui. Mmh. Yannick Chupin, on va continuer à parler avec vous de tout cela et de l'œuvre de Vladimir Nabokov, mais pour l'heure, je vous propose de retrouver la chronique. Elle est proposée aujourd'hui par Georges Marcabib. Georges Marcabib, de la librairie de l'Atelier, dans le 20e arrondissement de Paris, membre du réseau Librest. Bonjour Georges Marc.
Bonjour Mathieu.
Vous venez aujourd'hui nous parler de vos dernières découvertes en matière de romans.
Bah oui, vous savez qu'un libraire, son vrai plaisir, c'est la découverte, et c'est justement d'aller se confronter à tout ce qui est nouveau, de tout ce que peut sortir les maisons d'édition de nouveaux romans, voire de nouvelles maisons d'édition, etc. Et là, aujourd'hui, je viens vous parler d'un roman de Jean-Luc André Lasciano qui s'appelle « Souviens-toi des monstres » aux éditions aux Forges de Vulcain. C'est un roman étonnant, un roman d'une aventure baroque et fantastique qui va débuter avec la naissance de Siamois. Deux frères vont naître et vont partager une partie évidemment de leur corps, mais aussi de leur émotion et de leur intimité. Et ces Siamois, ils vont grandir dans une famille complètement improbable, protégée par leur sœur Sonia, mais aussi par leurs frères qui sont pêcheurs en mer, et avec une mère tout à fait rebelle, qui vit seule, qui a fait toute cette myriade, toute cette famille toute seule, sans père affirmé et confirmé en tout cas, et qui vit un peu à l'extérieur du village, donc en même temps craint et en même temps respecté par les gens du village. Évidemment, l'arrivée de ces Siamois dans ce village va perturber un peu cette communauté, qui va voir en eux et en même temps du malheur et en même temps peut-être une source de... De plaisir, enfin pas de plaisir, mais d'intérêt, exactement. Et en même temps, ces Siamois vont, eux, développer une force incroyable qui, à travers leur voix, leur organe, donc le fait de chanter, vont pouvoir soit faire advenir des belles choses, soit aller jusqu'à la mort des autres. Voilà, on va suivre les aventures de ces Siamois qui vont fuir, qui vont revenir, qui vont connaître l'amour, qui vont rencontrer les personnages les plus exubérants possibles, hein, du rabbin qui se fait copain avec un diable, jusqu'au prêtre qui est en fait un ancien tueur et qui est père de famille. Enfin voilà, tout ça nous amène dans une aventure complètement incroyable, et l'auteur, à travers un bouquin de 500 pages, entraîne son lecteur sans jamais le perdre. Et c'est ça qui est assez génial dans ce livre.
Alors, autre découverte, c'est le deuxième livre publié, mais le premier roman publié en France, hein, de la Suédoise Lina Wolf. C'est chez Gallimard et ça s'appelle, d'un drôle de titre d'ailleurs, Bret Easton Ellis et les autres chiens.
Exactement. Un titre tout à fait étonnant. C'est d'ailleurs ça qui a attiré mon attention, et c'est pour ça que je me suis attaqué à ce livre. Je n'avais pas lu le premier texte publié. Là, on va suivre Alba Cambo, pardon, qui vit à Barcelone, et c'est par elle que tous les personnages de ce roman prennent leur place et qui vont dévoiler les éléments un peu de leur vie. Chacun leur tour, ces personnages vont nous parler de eux à travers leur relation à cette Alba Cambo, qui est un être complètement incroyable, qui donne envie de la connaître, mais qui ne se dévoile jamais dans ce roman. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on connaît très peu de choses d'Alba, mais finalement on va plus connaître les personnages qui vont parler d'elle, quoi. Et la construction de ce roman est pas tout à fait linéaire, c'est-à-dire qu'on se balade dans le passé, dans le futur, dans le présent, enfin on sait vraiment jamais vraiment où on est, mais on n'est jamais perdu non plus. L'auteur arrive à nous attraper comme ça à travers cette Alba qui va vivre des histoires d'amour, vivre des histoires de relations de voisinage, vivre des choses improbables. Et une des narratrices, et notamment une des principales narratrices, s'appelle Araceli, qui est une jeune femme de 18 ans, va elle projeter à travers cette voisine toute sa vie de jeune femme, sa vie d'amoureuse, sa vie de femme accomplie. Araceli, elle vit avec sa mère, juste au-dessus de Alba, et puis elles vont vivre des choses complètement incroyables. Enfin, c'est un roman assez étonnant, très perturbant, parce que il ballotte le lecteur comme ça de droite à gauche, et on sait jamais vraiment où on est, mais en même temps on sait toujours où est Alba.
Bon, et puis on se demande pourquoi ça s'appelle comme ça, mais il faut sans doute le lire pour en savoir davantage. Georges Marc, on termine avec le dernier roman de Denis Lachaud, ça s'appelle L'Hémétèque, et c'est aux éditions Actes Sud.
Alors moi, Denis Lachaud, c'est un auteur que j'aime beaucoup, et là je trouve qu'avec ce roman il met ce qu'on appelle les pieds dans le plat. On est à Marseille, on est aujourd'hui, on va suivre comme ça une après-midi marseillaise d'une famille. Le père fait à manger, son fils aîné Célestin qui a 20 ans, le regard cuisiné nonchalamment comme ça, il est étudiant. Son petit frère de 10 ans s'excite comme un fou sur son jeu vidéo. Sa sœur cadette, on va dire, qui a 15 ans, elle, est connectée à ses écouteurs et vit sa vie d'ado à travers sa musique. Et puis arrive une lettre. La préfecture de Marseille enjoint la famille Herbet, à venir à la préfecture. Et là, tout d'un coup, quelque chose, le temps s'estompe, enfin, le temps s'arrête, et comme ça, il y a une espèce d'angoisse qui va s'installer. Et effectivement, dans cette France-là, figurez-vous que l'hémétèque, on n'exaccepte plus. C'est-à-dire, les gens, par exemple, cette famille-là, Herbert, les grands-parents ont changé de nom. Ils sont passés de Herzberg à Herbet. Et donc, on va demander à ces gens-là, mais pourquoi ont-ils changé de nom? Or, les grands-parents ont connu, eux, la guerre, ils ont fui l'Allemagne, ils ont fui la Pologne parce qu'ils étaient juifs, ils sont venus se réfugier en France, ils ont décidé de franciser leur nom, donc pour s'intégrer. Et bien ça, c'est un reproche que leur fait cette nouvelle société. Voilà. Et on va suivre comme ça Célestin dans une fuite pour échapper à cette nouvelle politique sociale de la France.
Voilà, qui donne envie. Merci beaucoup Georges Marc. Rendez-vous à la librairie de l'Atelier du lundi au dimanche matin pour ceux qui voudraient vous y voir, ou alors sur le site librest.com. À bientôt.
Merci.
Compagnie des auteurs, c'est sur France Culture. Deuxième moment de notre série consacrée à Vladimir Nabokov, célèbre lapidoptériste, comme on désigne les spécialistes des papillons, mais surtout très grand romancier, c'est-à-dire un petit peu espion.
Vos romans sont peuplés d'épieurs de toutes sortes. La plupart de vos personnages sont ou bien des épieurs, ou bien des épiés. Ou l'un et l'autre à la fois, est-ce que vous établissez un lien entre l'artiste et le voyeur, l'artiste et l'espion?
Oui, ça c'est intéressant, j'ai remarqué ça aussi, mais le mot voyeur, je n'aime pas beaucoup ce terme de voyeur qui a trop de résonance sexuelle, malgré le fait que c'est là le titre large et profond d'un des plus beaux romans de notre époque. Quant à mes personnages épieurs, comme vous dites, eh bien, oui, ils épient. Ils sont faits comme ça, c'est moi qui les a faits comme ça. Le seul lien que je vois entre l'artiste et l'espion consiste, il me semble, en ce que tous deux observent les choses et les gens et savent l'importance du détail. Le détail, tout est là.
Si on n'entrait pas dans les détails, l'histoire d'une vie pourrait se résumer à la date de naissance et de mort. Et c'est tout le travail du romancier, et d'un romancier comme Nabokov, d'écrire ce qui se passe entre les deux. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette archive, Yannick Chupin ?
On parlait du détail tout à l'heure, donc on y revient. C'est l'une des qualités principales du bon écrivain pour Nabokov que d'être extrêmement sensible, d'être un observateur très sensible du monde qui nous entoure. Non seulement il observe, mais il connaît aussi ce qu'il regarde ou il cherche à le connaître. L'écrivain doit pouvoir nommer aussi ce qui l'entoure. Il y a une petite anecdote qui peut être apocryphe, peut-être transformée, mais sur un étudiant de Nabokov Nabokov qui vient le voir dans son bureau à Cornell parce qu'il désire être écrivain. Et Nabokov lui demande de regarder par la fenêtre et lui désigne un arbre et lui dit et lui demande de donner le nom de cet arbre. L'étudiant ne le connaît pas. Il lui répond « Vous ne serez jamais écrivain.
» On peut se renseigner. Peut-être que la documentation a sa place aussi dans oui, le processus d'écriture de Nabokov.
Bien sûr, je pense que la réponse idéale, la réaction idéale de l'étudiant, c'est de sortir, d'aller effectivement trouver le nom de cet arbre et peut-être avoir alors l'espoir de pouvoir devenir écrivain. Mais cette connaissance du monde et cette attention à tous les détails est capitale. Elle va permettre aussi à Nabokov de distinguer certains personnages. Un personnage qui ne distingue pas une phalène d'un papillon, par exemple, c'est le cas de Humbert, a probablement des limites. Il n'est pas l'égal de Nabokov parce que cette distinction lui est égale et qu'il ne possède pas la précision de l'écrivain attendu.
Vous pensez qu'il se mesure à ses personnages ?
Non, enfin, je... en tout cas, tous ses personnages lui sont inférieurs, toujours, puisque Nabokov contrôle ses personnages, donc les domine, même si pendant le temps d'un roman, il les laisse croire que ce sont eux qui sont les créateurs. Mais il y a toujours un moment où le créateur suprême revient, dans les dernières pages, souvent, se laisse soupçonner sa présence à son personnage qui comprend qu'il n'est peut-être qu'une création, qu'un être de fiction créé par une entité supérieure.
Dieu, en quelque sorte.
Exactement.
Ce sont des marionnettes, alors, qu'il agit sur un théâtre.
Des marionnettes qui ont toutefois eu la grande chance d'exister pendant le temps d'un roman. Mais on leur reprend cette chance in extremis et ils sont renvoyés à leur être de papier.
C'est là où il ne peut pas y avoir d'autobiographie réelle dans les romans de Nabokov, si lui-même se sent supérieur à ses personnages.
Oui, alors l'autobiographie, je pense, serait un piège pour Nabokov. Vous avez parlé de son autobiographie hier.
Autre rivage.
Autre rivage, et Lord Trubetskoy mettait en évidence le fait que cette autobiographie a été composée de manière non pas chronologique, mais par petits épisodes qui ont été insérés ici et là. Et c'est une façon aussi de se préserver de cette avancée linéaire du temps qui vous emmène à la mort. Et l'écriture autobiographique, c'est son risque, c'est qu'elle vous conduit droit vers la mort et que quand vous êtes écrivain, auteur de votre autobiographie, le moment où vous rejoignez sur la ligne temporelle le temps du discours, hein, vous n'avez plus rien à dire. Donc c'est le silence, donc c'est la fin et vous devez vous arrêter d'écrire. Et vous perdez votre existence de créateur.
Est-ce que la tendance qui va être celle de Nabokov d'écrire de plus en plus des vies, du début à la fin, bon, ça commence avec Sebastian Knight, c'est une biographie, mais Lolita c'est un petit peu différent, mais c'est quand même une grosse partie de la vie du narrateur. Oui. On pourrait prendre comme ça... plusieurs exemples. Ça vous semble signifiant d'une façon ou d'une autre, Yannick Chupin ?
C'est très signifiant quand on regarde l'ensemble de l'œuvre et vers quoi elle s'achemine. Et ça culmine avec le dernier roman publié, Regarde les Arlequins, enfin le dernier roman achevé. Puisque dans ce dernier roman, Regarde les Arlequins, Nabokov crée ce double de lui-même qui aurait écrit des œuvres qui sont sensiblement les mêmes que lui, que les siennes. Mais c'est une parodie. Ce personnage, n'est pas Nabokov. Mais de plus en plus, on va vers cette proximité... vers cette écriture d'une vie entière, cette recréation dans Ada également. L'écriture devient la source de la vie, d'une certaine manière, de plus en plus.
Donc c'est l'histoire d'un style que nous raconte Nabokov, oui, l'histoire du style de l'écrivain.
Oui, il le dit, hein, c'est cette citation connue, que ce qui est plus intéressant dans la biographie d'un écrivain, ce n'est pas le récit de ses aventures à lui, mais l'histoire de son style. Et c'est ce qu'il nous amène aussi à observer au fil de ses romans.
Alors, dans la fiction en langue russe, donc la première partie dans la carrière de Nabokov, disons jusqu'au Guetteur, l'écrivain, ça va être plutôt, en tout cas le personnage d'écrivain, un type social qui va évoluer parmi d'autres types sociaux, l'homme d'affaires, la dactylo, l'éditeur, que sais-je. Et au fur et à mesure, il va vraiment se concentrer sur la description fine de l'écrivain.
Oui, à partir du don, déjà. À partir du don ou qui nous présente vraiment un roman de formation de l'artiste, ce qu'on appelle le Künstlerroman, où on assiste à l'éclosion des talents littéraires de Fiodor. Et à mesure qu'on avance, les talents des personnages sont de plus en plus affirmés, effectivement.
Et là, le narrateur oscille entre la troisième personne et la première personne.
C'est ça. On était dans la fiction russe sur des récits à la troisième personne essentiellement. Et puis, avec le don, tous les passages qui concernent justement la création de l'écrivain, la mutation de Fiodor en écrivain, vont être écrits à la première personne, alors que le récit de sa vie à Berlin est écrit à la troisième. Donc on a cette oscillation intéressante qu'on va retrouver plus tard, mais ce qui va s'imposer, c'est la première personne.
Et pourquoi alors? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça montre?
La première personne s'empare du langage pour exister, véritablement. La première personne s'engendre de l'écriture. Le titre de Autre Rivage, à l'origine, n'était pas donc Autre Rivage au Speck Memory, c'était La Preuve Concluante. C'est ainsi que Nabokov voulait appeler son autobiographie. Et en fait, il fallait entendre La Preuve Concluante que j'ai bien existé, parce que j'ai écrit cette autobiographie. Donc il y a cette urgence à exister qui s'impose dans les romans de la période américaine à travers ce jeu qui est pleinement responsable de l'écriture.
Et puis de plus en plus, il va y avoir des extraits de textes écrits par les personnages qui vont s'insérer à l'intérieur du texte aussi.
Ça commence avec le don. Et c'est là que Nabokov se moquait un petit peu de ces romans d'écrivains qui nous décrivaient un écrivain de loin, sans jamais nous montrer ce qu'il y avait à lire. À partir du don, on voit des poèmes de Fiodor, on va avoir des extraits de la biographie de son père. Et puis petit à petit, on va voir tout le manuscrit. Puisque dans Lolita, le manuscrit de Humbert, c'est Lolita. Dans Ada, Ada ou l'Ardeur, cette grande chronique familiale, le livre de Nabokov, c'est le manuscrit de Ada et Van, enfin de Van principalement.
D'ailleurs, il y a beaucoup de passages dans les bibliothèques, le monde du livre est très important.
On est dans un univers scripturaire de plus en plus, même parfois les paysages sont revisités par des filtres littéraires. Oui, il y a ce monde de l'écriture qui domine.
Donc à partir du don, on a dit que les romans donnaient de plus en plus de place à la formation du héros, qu'on est de plus en plus dans des biographies ou des autobiographies fausses, plus ou moins fausses, et cela jusqu'à la mort. Et vous avez commencé à expliquer tout à l'heure, Yannick Chupin, en quoi c'était important qu'on aille jusqu'à la mort dans ces récits tels que Nabokov les envisage. Pour ouvrir ce dernier petit chapitre de l'émission, je voudrais vous faire écouter. Alors, il n'est pas question de mort, il est question de meurtre dans cet extrait de Roi, Dame, Valet, le deuxième roman de Nabokov, lui ici par Jean Topard.
Discuter les méthodes du meurtre devint pour eux une occupation quotidienne. Aucune gêne, aucune honte ne se mêla à leur peau. Les moyens de tuer un homme purent être considérés avec autant de calme que des recettes de cuisine. Et sans doute Marthe pensa au poison tout d'abord à cause du penchant inné des femmes pour les techniques culinaires, à cause de leur connaissance instinctive des herbes et des épices, de ce qui est sain et de ce qui ne l'est pas. Dans une encyclopédie de second ordre, ils s'initièrent aux procédés employés par toutes sortes de lugubres Lucrèces et autres locustes. Une bague au chaton creux emplie de venin irisé tourmenta l'imagination de Franz. Il se mit à rêver la nuit de poignées de main perfides. Mais dans la journée, grâce à la présence sereine de Marthe, tout redevenait simple. Tofana, une jeune Sicilienne qui avait expédié 639 personnes, vendait son aqua dans des fioles dont les étiquettes mensongères portaient l'innocente image d'un saint. Le comte de l'Est employait une méthode plus douce. Sa victime rendait l'âme en éternuant après avoir prisé un tabac mortel.
Évidemment, le meurtre est amusant chez Nabokov, comme souvent tout est amusant d'ailleurs chez Nabokov. Qu'est-ce que vous retenez de cet extrait, Yannick Chupin ?
Vous dites que le meurtre est amusant et le sous-titre de l'original de Laura, c'est « Dying is fun »,
oui.
Donc c'est amusant de mourir. Oui, je retiens aussi que la mort est véritablement omniprésente dans l'œuvre de Nabokov et toutes les œuvres de Nabokov commencent par une référence à la mort. Quand il écrit lui-même la biographie de Gogol, il commence par raconter sa mort. Le Don commence par l'extrait d'une grammaire qui se termine ainsi « La mort est inévitable ». Tous les personnages d'Ada sont morts au moment où on entame la lecture. La même chose dans Lolita. Voilà, la mort est au seuil du roman.
Qu'est-ce que ça produit d'annoncer tout de suite que tout le monde va mourir ?
Alors déjà, on est toujours dans cet esprit de ne pas s'arrêter à l'intrigue, mais on s'intéresse à comment les choses vont se dérouler plus que va-t-il se dérouler. Et puis c'est la thématique aussi liée à l'écriture dont on parlait tout à l'heure, de l'écriture qui va donner cette vie, mais qui va s'arrêter à un moment donné. Et il va falloir trouver pour ces personnages une façon d'échapper à ce couperet. Certains ne vont pas y échapper. D'autres, comme Ada et Van, vont réussir à contourner la mort de l'écriture par un stratagème assez de l'œuvre circulaire. Quand on termine Ada, c'est un petit peu comme dans la recherche de Proust, on est invité à reprendre l'œuvre au début, ce qui fait que ces personnages qui ont atteint un très grand âge à la fin de Ada, ils sont proches de 100 ans, vont s'évanouir comme dans les rabats du livre pour renaître à la première page.
Et vous sentez une angoisse de l'écrivain Nabokov derrière ce processus ?
Oui, c'est impossible de ne pas le sentir, je crois que c'est très... Même si l'angoisse de Nabokov n'est jamais directement abordée dans aucun roman, tout est très oblique.
D'ailleurs, il refusait la psychologie, il détestait
Absolument.
Freud.
Voilà, et c'est pourquoi les critiques nabokoviens aussi n'aiment pas toujours aborder cette approche psychanalytique. Certains le font, mais cette angoisse, elle est toujours diffractée, métamorphosée à travers un cadre fictionnel.
Est-ce qu'on peut parler de la mort de l'auteur chez Nabokov ?
Alors, la mort de l'auteur, vous faites référence au texte de Barthes de 1967. Et j'ai l'impression que dans Feu pâle, il y a une parodie, mais anticipatoire, de cette idée de la mort de l'auteur. La mort de l'auteur, pour Barthes, c'est l'idée qu'à partir du moment où une œuvre est publiée, elle appartient au lecteur, et c'est le lecteur qui va faire advenir le sens de l'œuvre, et que l'auteur n'a plus d'autorité du tout sur son texte. Et on a une scène assez cocasse dans Feu pâle, puisque dans Feu pâle, un poète termine son manuscrit et au moment où il tend les pages de son manuscrit à son voisin qui attend, qui convoite ce manuscrit pour le lire, il est assassiné. Et qui va recevoir ce manuscrit, c'est ce Kinboat, ce voisin lecteur qui va offrir une lecture absolument délirante du poème. Et on a presque ici une illustration parfaite, sur le ton de l'humour, de ce qui va se passer avec ce phénomène de la mort de l'auteur en 1967. Mais c'est anticipatoire parce qu'on est en 1962. Mais l'idée du lecteur tout puissant, qui ne plairait peut-être guère à Nabokov.
Est-ce que, là vous venez de nous expliquer, de nous analyser le rapport de Nabokov avec le fait d'écrire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très intelligent, de trop intelligent dans la littérature de Nabokov qui aurait peut-être tendance justement, et là aussi c'est circulaire, vous voyez comme c'est bien fait, ça nous ramène au début de l'émission, qui aurait peut-être tendance à tuer un petit peu le conte de fées dont Nabokov pensait que c'était ce qui faisait le grand roman.
Oui, alors on peut absolument se poser cette question. Est-ce que la fiction de Nabokov risque de ne pas se relever de tant d'intelligence notamment avec toutes ces références à l'écriture qui brisent l'illusion mimétique du lecteur. Mais pour moi, au contraire, le sens de l'œuvre est multiplié parce qu'il y a plusieurs lignes parallèles. Vous parliez de plusieurs façons d'aborder Lolita. Et la ligne la plus poignante, pour moi, reste cette relation compliquée de l'auteur avec ses mots, avec ses créations.
Et là, on est dans le sensible, du coup ?
Absolument. C'est la manière aussi la plus... C'est une manière assez subtile de nous communiquer cette angoisse dont on parlait tout à l'heure, mais d'autant plus subtile que forte.
Merci beaucoup, Yannick Chupin. Je rappelle que vous êtes donc maîtresse de conférences en littérature nord-américaine à l'université de Cergy-Pontoise et présidente de la société française Vladimir Nabokov, a.k.a. also known as Les Chercheurs Enchantés, société qui d'ailleurs organise du 6 au 8 juin 2019 un colloque sur l'histoire et la géographie dans l'œuvre de Nabokov. Et puis on vous doit le livre Vladimir Nabokov, fiction d'écrivain, aux presses universitaires Paris-Sorbonne en 2009. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Jean-Frédéric. Demain, nous poursuivons notre exploration de l'univers littéraire de Nabokov en nous arrêtant plus longuement encore que nous l'avons fait aujourd'hui sur son roman Lolita, le plus célèbre de tous. Mais pour l'heure, c'est avec la poésie que vous avez rendez-vous. Elle est lue et choisie, comme chaque jour, par Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Nous sommes avec Éric Poindron. Poète cette fois-ci, et d'autres fois, éditeur, écrivain, piéton, collectionneur. Il lui arrive aussi d'écrire sur la gastronomie, les vins et les alcools. Ici, paru au Castor Astral comme un bal de fantôme. Dans la section printemps, premières observations. Aux échecs, les fous sont les plus près des rois. Ce qui peut-être signifie qu'à la cour et près des princes, les gens peu raisonnables sont souvent en grande faveur. C'est une citation de Monsieur Littré. Avoir une araignée au plafond, ou chez nos amis anglais, avoir des chauves-souris dans le beffroi, ou chez nos amis portugais, avoir des petits singes dans le grenier, ou chez nos amis roumains, avoir mangé la dame d'onzeur ou la mandragore, ou chez nos amis wallons, avoir une mouche dans leur loge... Par exemple, toujours cette oscillation entre les trois singes sages et le bretteur incorrigible. Demeurer toujours improbable, en somme. Improbable. Oui, quelle activité extraordinaire de s'écrier « Tiens, en ce jour ordinaire, à défaut du ciel inouï, je vais observer ce coin du plafond, comme une salle de bal aux papillons. » Eh bien, un poème un peu conteur après ce poème délicatement selfie. Un jour de grande chaleur, un poète qui avait grande soif but 26 bouteilles. À la suivante, il fit un mauvais pas et tomba dans la bouteille. Elle était gigantesque, ce qui ne dérangea guère le poète. Quand il eut fini de tout boire, il fut tout rempli de 27 bouteilles. Il ne pouvait plus se lever, plus rêver. Il prit peur et se mit à crier. « Ohé, quelqu'un, une belle âme, une échelle, un miracle !» Un marchand de couleurs qui passait par là et vit la bouteille, approcha son nez et d'un écho dans le goulot, dit à l'ennuyé, presque noyé, « Bien fait, l'ami, te voilà en regret. Une bouteille n'est pas un encrier. Dans une bouteille, un poète a la mer. » Ah oui, les regrets, le poète et les regrets. Moi j'ai regrets, des regrets que je n'ai pas lus. Ces regrets de Dubellé, je me plais à mes vers. Si j'ai quelques regrets, je me ris avec eux. Je leur dis mon secret, comme étant de mon cœur les plus sûrs secrétaires. Quelqu'un dira de quoi servent ces plaintes. Comme de l'arbre on voit naître le fruit, ainsi les fruits que la douleur produit sont les soupirs et les larmes non feintes. Et c'est pourquoi, d'une douce satire entremêlant les épines aux fleurs, pour ne fâcher le monde de mes pleurs, j'apprête ici, le plus souvent à rire, dit du Bellay.
Merci Jacques Bonafé pour la suite de vos lectures de Comme un bal de fantôme d'Éric Poindron.